Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et Le Devoir. Au programme, si on parlait de ce qui va bien à l'école. Pourquoi le smog des feux de forêt du Québec est rendu à New York? Et un impact environnemental monstre. Bonne écoute!
Si on parlait de ce qui va bien à l'école, un texte de Stéphanie Gramont, paru le 8 juin 2023 dans La Presse. Vous connaissez Maggie McDonnell? C'est la meilleure enseignante au monde, à en juger par le Global Teacher Prize qu'elle a remporté en 2017, l'équivalent du prix Nobel de l'éducation. Et vous savez où elle travaillait? Oui, au Québec, dans le petit village inuit de Saluit. Malheureusement, ses faits d'armes sont largement passés inaperçus, comme tant d'autres succès du réseau de l'éducation du Québec, auxquels on préfère lancer des tomates que des fleurs. Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. L'adage s'applique à merveille à notre système scolaire, qui n'est pas au bord du gouffre, malgré le discours très sombre qui l'entoure. Professeurs qui hurlent à la figure de leurs élèves, séries noires d'agressions sexuelles dans les écoles, 30 000 professeurs non qualifiés, établissements qui tombent en ruine, augmentation de la proportion d'enfants en difficulté, épuisement du personnel, décrochage des garçons. N'en jetez plus, la cour d'école est pleine. L'idée n'est pas de nier les problèmes bien réels dans nos écoles. Sauf qu'en martelant sans cesse un message négatif, on décourage ceux qui travaillent avec ardeur dans le domaine de l'éducation et qu'on tente de retenir par tous les moyens. Au-delà de tout ce qui cloche, il y a une foule de professeurs qui s'investissent dans leur métier bien au-delà de leur description de tâches et qui marquent la vie de leurs élèves, positivement. Ce n'est pas un hasard si les enseignants forment l'une des professions qui inspire le plus confiance au Québec, selon le baromètre de la firme Léger. Alors que la fin des classes approche, les professeurs méritent qu'on leur dise « Chapeau! Votre travail porte ses fruits! » Il suffit de prendre un pas de recul pour s'apercevoir que le système scolaire québécois, même s'il est loin d'être parfait, se compare très avantageusement à l'échelle provinciale et mondiale. Les résultats scolaires des élèves québécois sont parmi les meilleurs au monde, selon les tests du Programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA, réalisé par l'OCDE, qui mesure les résultats des élèves de 15 ans dans 79 pays du monde, selon la compilation la plus récente qui date de 2018. Pour les compétences globales, le Canada est en tête de peloton, dépassé seulement par Singapour. Et parmi les provinces, le Québec arrive en troisième place, non loin derrière l'Alberta et l'Ontario. Pour la lecture, le Canada n'est surpassé que par trois pays, Chine, Singapour, Estonie, et le Québec arrive encore en troisième place sur la scène provinciale. Pour les mathématiques, le Québec obtient un brillant résultat, trônant tout en haut du palmarès, juste derrière la Chine et Singapour et devant toutes les provinces canadiennes. Et pour les sciences, le Québec est bon deuxième parmi les provinces, derrière l'Alberta, avec seulement 5 pays devant. Avouez que ça fait un beau bulletin. Soyons-en fiers. Il est vrai que les données des tests PISA ont été remises en question dans le passé. En 2015, par exemple, un malheureux boycottage dans les écoles publiques du Québec avait conduit à une sous-représentation de leurs élèves. Mais les résultats du dernier coup de sonde sont fiables. Et la stabilité des résultats dans le temps rassure les psychométriciens. De toute façon, les résultats des tests PISA sont corroborés par une foule d'autres études. Deux chercheurs de l'ESG UQAM ont analysé pas moins de 19 enquêtes internationales et provinciales réalisées entre 1993 et 2018. Ils arrivent à la conclusion que les élèves québécois, le plus souvent, performent mieux ou aussi bien que ceux des autres provinces. En outre, le système québécois paraît plus efficace que celui des pays d'Europe du Nord qui sont souvent cités comme des modèles. Le plus beau dans tout ça? Les chercheurs établissent que le système d'éducation du Québec n'est pas plus inégalitaire que celui des autres provinces, contrairement à ce qu'avait affirmé le Conseil supérieur de l'éducation dans un rapport qui avait marqué les esprits en 2016. Ce constat très dur avait fourni de l'eau au moulin à ceux qui réclament l'abolition du système à trois vitesses, public, public à vocation particulière et privé. Mais après avoir consulté des scientifiques, le Conseil a fait une mise au point. Cela ne veut pas dire que notre système est parfaitement équitable. Pas du tout. D'ailleurs, on sait que la COVID-19 a été particulièrement néfaste pour les plus défavorisés. Il demeure donc crucial de favoriser l'égalité des chances à l'école si on ne veut pas créer des fossés qui seront maintenus jusqu'à l'âge adulte. Il est inacceptable que les services publics soient sous-financés et que les jeunes qui ont besoin d'aide restent sur leur faim. Aidons-les. Repérons dès leur plus tendre enfance les enfants à risque d'échouer pour les amener vers le haut. Si on réduit les écarts à l'école en tirant vers le bas, ce qui fonctionne le mieux, on ne sera pas plus avancé. Il est sain d'avoir des débats à propos de l'éducation, comme on l'a vu cette semaine lors des auditions entourant le projet de loi du ministre Bernard Drainville. Mais, à travers ces débats, ne perdons pas de vue tout ce qui va bien dans nos écoles. C'était « Si on parlait de ce qui va bien à l'école », un texte de Stéphanie Gramont, paru le 8 juin 2023 dans La Presse.
Pourquoi le smog des feux de forêt du Québec est-il rendu à New York? Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 8 juin 2023 dans Le Devoir. Il est rare que la forêt boréale, Chibougamo ou Ouachat, Makmani-Outenam, fasse parler d'eux jusqu'à New York et Philadelphie. Le nuage de smog créé par les feux de forêt au Québec brouille le ciel d'une bonne partie du nord-est américain, au point où les indices de qualité de l'air sont presque tous dans le rouge. Mais comment ces contaminants ont-ils parcouru des centaines de kilomètres? Et ce phénomène va-t-il demeurer rare? La fumée des feux de forêt qui a recouvert Montréal lundi s'était rendue jusqu'en Caroline du Nord jeudi. Bien que la qualité de l'air fût alors revenue à bonne dans la métropole québécoise, la concentration de particules fines était à New York largement supérieure au seuil établi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La capitale américaine a aussi haussé son niveau de risque à un code violet, un geste sans précédent, selon le Conseil des gouvernements de la région métropolitaine de Washington. C'est clair que tous les facteurs ont été réunis depuis plusieurs jours. C'est vraiment une conjonction de plusieurs choses, explique Philippe-Lucas Piché, professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM. Il faut évidemment des feux importants comme source de base, dit-il, pour mettre la table. Il y avait jeudi environ 140 feux actifs sur le territoire québécois, dont 80 classés hors contrôle par la Société de protection des forêts contre le feu, SOPFEU. La deuxième condition présente est une dépression, une zone de pression faible au-dessus de la côte est de l'Amérique du Nord, ce qui crée une circulation atmosphérique cyclonique qui tourne dans le sens antihoraire, affirme aussi Patrick Hayes, professeur de chimie analytique et atmosphérique à l'Université de Montréal. Et c'est cette circulation cyclonique centrée sur la Gaspésie qui produit un vent du nord vers le sud dans l'axe Abitibi-New York. Ce type de système n'est pas si rare, précise Jules Blais, un expert des polluants environnementaux de l'Université d'Ottawa, mais sa durée explique l'envergure du phénomène actuel. L'autre élément clé, mentionné par tous les spécialistes consultés, est le vent du nord qui souffle depuis plusieurs jours. C'est ce qui explique les températures plutôt fraîches en ce moment à Montréal. Il y a une circulation constante du nord vers le sud qui pousse la dépression dans un corridor vers New York, précise M. Lucas Piché. Washington se trouve plus au sud que cette ville, mais dans le même couloir. C'est aussi que le panache de fumée n'a pas eu la chance de se disperser, ajoute-t-il, et continue donc à former une masse compacte très épaisse qui incommode nos voisins du sud. Un épisode très remarqué. L'écrasante majorité des grands quotidiens américains ont mis l'exécrable qualité de l'air en première page jeudi matin, le 8 juin dernier, de la côte est jusqu'à San Francisco. Le New York Post a utilisé l'une des formulations qui faisait le plus réagir sur les réseaux sociaux. « Blâmer le Canada », titrait sa une aux accents orangés. C'est la chose la plus malsaine à être sortie du Canada après la poutine, y lit-on en plus petit caractère. Un code rouge était encore en vigueur à New York, à Baltimore et à Philadelphie au moment où ces lignes étaient écrites. Sur un ton plus sérieux. Le Washington Post titrait quant à lui « Une vérité brûlante, la menace climatique pour la santé est inévitable ». Les feux non maîtrisés au Canada viennent souligner que la menace à la santé humaine induite par les changements climatiques transcende les frontières nationales, poursuivait l'article. Sur la côte ouest, c'est plutôt un ton empathique qui l'emportait. Les feux de forêt au Canada nourrissent une peur pour la santé que les Californiens connaissent trop bien, écrivait le San Francisco Chronicle. Tout sauf une anecdote. La dépression ne bouge pas. Elle est comme stationnaire. Et le vent du nord continue à souffler. C'est un robinet ouvert qui pousse les particules directement vers le sud, résume le météorologue Gilles Brien. Il s'alarme de la piètre qualité de l'air au sud de la frontière, mais pas seulement. L'alerte de smog est encore valide pour l'Abitibi, où la concentration des particules fines de moins de 2,5 micromètres, microparticules PM2,5, dans l'air, atteint 3 à 4 fois le seuil d'alerte d'Environnement Canada, organisme où M. Brien a travaillé durant plusieurs décennies. Ces particules suscite l'inquiétude, car elles sont assez petites pour entrer dans les poumons des humains et se retrouver dans la circulation sanguine. C'est une forme de déchets non brûlés, de produits carboniques beaucoup plus petits qu'un cheveu, illustre le météorologue. Le seuil établi par l'OMS est de 15 microgrammes de PM2,5 par mètre cube pour une exposition quotidienne lors d'épisodes limités et de 5 microgrammes pour une exposition annuelle, donc plus chronique. En début d'après-midi, le 8 juin dernier, Toronto était en voie d'avoir plusieurs fois cette concentration, rattrapant tristement les horizons orangés des ciels enfumés aux États-Unis. Le pronostic de pluie pour l'après-midi et la nuit y donnait une certaine lueur d'espoir, tout comme à Ottawa, où l'on respire vraiment mieux qu'hier, dit le professeur Blais depuis son bureau situé dans cette ville. Environnement Canada est également capable de prédire où le nuage de fumée des feux de forêt se dirige grâce à un modèle de pointe, indique le professeur. Les Américains respireront ainsi les arbres pulvérisés par les feux sur la côte nord, en Abitibi et dans le nord du Québec encore quelques jours, confirme Philippe-Lucas Pichet. Ça met en évidence que l'air circule et ne s'arrête pas aux frontières nationales, dit-il. Les modèles de prédiction climatique montrent que les feux de forêt vont augmenter en nombre et en intensité au Québec au cours des prochaines années. C'est la nouvelle normalité et c'est un bon rappel que tout est interconnecté, conclut M. Blais. C'était « Pourquoi le smog des feux de forêt du Québec est-il rendu à New York? » un texte de Sarah R. Champagne, paru le 8 juin 2023 dans Le Devoir.
Un impact environnemental monstre. Un texte de Karim Benessaye, paru le 3 juin 2023 dans La Presse. Les réponses étonnantes d'un robot conversationnel comme ChatGPT et toutes les intelligences artificielles qui ont modifié notre quotidien ont un coût environnemental que des scientifiques calculent depuis quelques années. Mais il y a des solutions que ces intelligences pourraient elles-mêmes contribuer à trouver. L'équivalent de 5 voitures. Les intelligences artificielles basées sur les réseaux de neurones, cet apprentissage profond, qui connaît de grands succès depuis une décennie, implique des milliers, sinon des millions d'heures de calcul informatique. Comme on raffine le pétrole, un parallèle souvent cité, des ordinateurs doivent analyser des volumes astronomiques de données. Une équipe de l'Université du Massachusetts a fait l'exercice en 2019 d'évaluer et de comparer la consommation énergétique de cet entraînement et d'en calculer les émissions de gaz à effet de serre, GES, basées sur le mix d'électricité typique du plus gros fournisseur infonuagique, AWS, d'Amazon. En voici les conclusions. Alors que beaucoup d'entre nous y ont probablement pensé de manière abstraite et vague, les chiffres montrent vraiment l'ampleur du problème. A résumé, Carlos Gomez Rodriguez, informaticien à l'Université de A Coruña, en Espagne, cité par le MIT Technology Review. Ni moi, ni les autres chercheurs avec qui j'en ai discuté, ne pensions que l'impact sur l'environnement était aussi important. Plus qu'Hydro-Québec. On l'oublie facilement, mais toute activité informatique à grande échelle implique une grande consommation d'électricité. Aucune étude n'a malheureusement pu établir la consommation globale de tous les ordinateurs dans le monde utilisés pour l'intelligence artificielle. On a cependant un portrait assez précis de la consommation des quelque 8000 centres de données dans le monde grâce à un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié en septembre 2022. Ces infrastructures sont centrales pour le numérique, de l'Internet à l'entraînement des IA. En excluant les crypto-monnaies, on estime que les centres de données ont consommé en 2021 entre 0,9 et 1,3 % de l'électricité utilisée dans le monde, soit entre 220 et 320 TWh pour des émissions en équivalent CO2 de 300 millions de tonnes. À titre de comparaison, le Québec a produit 213 TWh en 2019, le dernier bilan complet de la Régie de l'énergie du Canada. Les émissions de GES au Québec se sont établies à 84,3 millions de tonnes en 2019, selon Québec. En 2020, trois chercheurs du département d'informatique de l'Université de Copenhague, Lars F. Wolf Anthony, Benjamin Kanding et Raghavendra Selvan, ont mis au point un logiciel Carbon Tracker permettant de calculer la consommation énergétique et les émissions de GES de l'entraînement d'une intelligence artificielle. Leur principale découverte? Une séance d'entraînement pour ChatGPT-3 équivaut à la consommation d'électricité de 126 maisons danoises en un an. La quantité de CO2 émise équivaut à 700 000 km de conduite automobile. Les développements dans ce domaine sont extrêmement rapides et les modèles d'apprentissage profond deviennent constamment plus grands et plus avancés, a déclaré M. Anthony à la revue Unite.ai. À l'heure actuelle, on assiste à une croissance exponentielle et cela signifie une consommation d'énergie croissante à laquelle la plupart des gens semblent ne pas penser. Question d'efficacité. Cette idée de consommation croissante ne fait cependant pas l'unanimité. Une étude plus récente, publiée en juin 2022 et impliquant des chercheurs de Google et de l'Université de Californie à Berkeley, estime que l'empreinte écologique de l'entraînement des intelligences artificielles va atteindre bientôt un plateau avant de diminuer. Dans son rapport de septembre dernier, l'Agence internationale de l'énergie indique que nous sommes déjà sur cette voie. On note qu'alors que l'utilisation de l'Internet a explosé en 2021, avec une hausse de 31% de la consommation de données mobiles, la demande en électricité n'a augmenté que de 5%. L'intelligence artificielle à la rescousse de l'intelligence artificielle. Pour Bernard Lebel, PDG de la firme montréalaise The Green Link, qui conseille les entreprises en développement durable, c'est cette perspective d'optimisation qu'il faut retenir. Comme dans toute technologie, on a forcément une montée en puissance de cet impact parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de l'optimiser. Une fois qu'elle est à maturité, on est capable d'être plus performant, selon Bernard Lebel, PDG et fondateur de la firme montréalaise The Green Link. Les chercheurs en intelligence artificielle ont fait des pas de géant pour entraîner leurs modèles sur de plus petites bases de données, souligne-t-il. Il rappelle en outre que les impacts en matière d'émissions de GES dépendent évidemment de la source de production d'électricité. et l'intelligence artificielle apportera une aide précieuse pour améliorer des sources renouvelables comme le solaire et l'éolien, tout en aidant au stockage. Aujourd'hui, on se pose ces questions alors qu'on utilise une infrastructure informatique du 20e siècle. Dès qu'on va tomber dans le quantique ou le photonique, le jour où on va commencer à faire tourner de plus en plus facilement nos modèles, les impacts environnementaux ne seront plus les mêmes. En savoir plus. 327,5 milliards US. Estimation du marché mondial de l'intelligence artificielle en 2021. Source Statista. 1,16 milliard. Nombre d'utilisateurs de ChatGPT en avril 2023. Source Visa Digital. C'était un impact environnemental monstre. Un texte de Karim Benessaye, paru le 3 juin 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.